Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
6h30 sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous, le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une information, RMC ce matin, une plainte déposée contre l'hôpital Cochin à Paris. Pourquoi ? Parce qu'une patiente a été violée par un sans-papier qu'il avait repéré dans un bar. À la une ce matin, Adrien Quatennens qui ne retournera pas à l'Assemblée après de nouvelles révélations de son ex-femme. Et puis une nouvelle surprise à la Coupe du Monde de football, le Japon qui bat l'Allemagne de 2-1.
Et c'est une affaire qu'RMC vous révèle ce matin. Une plainte est déposée contre l'hôpital Cochin à Paris.
Une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui après l'agression, c'était fin octobre, d'une femme de 34 ans par un autre patient, un sans-papier, sous le coup de deux obligations de quitter le territoire, qui aurait repéré sa victime en dehors de l'hôpital, avant qu'elle ne soit hospitalisée, à la sortie d'un bar. Affaire que nous révèle Guillaume Bier, le chef du service police-justice à RMC.
Victime d'un malaise et d'une chute à la sortie d'un bar, Isabelle perd connaissance. Mais avant l'arrivée des pompiers, un homme rôde et la regarde avec insistance, d'après des témoins. Une heure plus tard, c'est lui qui simule un malaise au même endroit. Les pompiers reviennent et le conduisent, comme la jeune femme auparavant, à l'hôpital Cochin. Là, il cherche et retrouve Isabelle, qu'il est donc accusé d'avoir violé après lui avoir volé sa carte bancaire. Au-delà des faits, l'une des avocats de la victime, maître Laura Abécassis, porte plainte aujourd'hui contre l'hôpital Cochin.
Personne n'imagine qu'on puisse commettre des faits aussi graves de nature criminelle dans un établissement public, dans le service public. C'est inimaginable. Alors évidemment, cette plainte sert à vérifier, en tout cas, s'il y a eu un manquement, que ce soit de l'établissement public ou du personnel, pour assurer la sécurité des patients et notamment de ma cliente.
Quant au suspect, rapidement arrêté par les policiers, c'est un homme de 22 ans, sans papier. D'après nos informations, il était sous le coup de deux ordonnances de quitter le territoire, sous deux identités différentes. Il a été mis en examen et écroué.
Il est 6h32 sur RMC. Adrien Quatennens ne retournera pas à l'Assemblée. Procédure de retour était pourtant en cours, mais elle a été annulée hier soir. Décision des Insoumis. Après les nouvelles révélations dans cette affaire de violence conjugale, l'ex-femme du député est sortie de silence hier pour expliquer qu'elle subissait violence et colère depuis plusieurs années. Accusation mensongère, répond l'avocate d'Adrien Quatennens, qui est convoquée le mois prochain devant la justice pour une procédure de plaider coupable. C'est comme ça que ça s'appelle, Marion Dubreuil. Est-ce que ces nouvelles révélations sont de nature à alourdir le dossier?
Eh bien, à ce stade, il n'y a pas de changement d'orientation du côté du parquet de Lille. Adrien Quatennens reste convoqué le 13 décembre pour une procédure de plaidé coupable pour violence conjugale. Il sera donc seul face à une procureure pour négocier une peine. Le point final d'une procédure pénale au cours de laquelle le député LFI a reconnu avoir giflé son épouse et lui avoir envoyé de nombreux SMS. Mais le parquet de Lille avait-il connaissance de l'ensemble des accusations portées par Céline Quatennens? Cette dernière évoque dans un communiqué des violences physiques et psychologiques exercées depuis plusieurs années. Céline Quatennens, qui ne souhaitait pas déposer plainte contre son mari au départ, a-t-elle tout dit en audition face aux policiers? Il n'y a pas de nouvelle affaire Quatennens, affirme de son côté l'avocate du député, qui dénonce des accusations mensongères.
Les Insoumis qui veulent faire interdire la corrida, proposition de loi qui sera examinée aujourd'hui à l'Assemblée, mais ce ne sera pas le cas, ce n'est pas la priorité, disait Emmanuel Macron hier devant les maires, le président qui a pris position dans ce dossier. Le gouvernement va renforcer la sécurité dans les transports en commun. Romain Poiseau, pour RMC, les effectifs de policiers et de gendarmes vont doubler d'ici les Jeux Olympiques de 2024. On se prépare en fait à l'arrivée massive de supporters.
1835 policiers et gendarmes en plus seront prochainement déployés dans les transports. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui. 200 seront affectés rien qu'à Paris, le reste en province. Il s'agira en fait d'unités spécialisées dans 8 grandes agglomérations, Bordeaux, Rennes, Orléans, Rouen, Strasbourg, Dijon, Nantes et Toulouse. Des unités de 60 à 90 policiers pour surveiller les bus, les métros ou les tramways. Dans les villes moins importantes comme Angers, Amiens ou Lens, il y aura 37 brigades de 10 à 20 agents qui sillonneront les transports en commun. Et pour faciliter les dépôts de plainte en cas d'agression, des commissariats seront installés directement dans certaines gares. Même si les chiffres de la délinquance dans les transports sont en baisse, selon le ministre de l'Intérieur, moins 8% sur les 10 premiers mois de l'année, Gérald Darmanin souhaite obtenir de meilleurs résultats en vue des JO, surtout dans les grandes agglomérations.
Je vous signale que le trafic des trains sera interrompu au moins jusqu'à samedi entre Narbonne et Castelnaudary après le déraillement d'un train de marchandises hier. Ça concerne notamment les TGV Toulouse-Lyon et les intercités entre Marseille et Bordeaux.
RMC Coupe du Monde 2022.
Alors, ce n'est pas un jour férié au Japon, mais ça pourrait, comme en Arabie Saoudite, parce que les Japonais ont réalisé un nouvel exploit dans ce mondial en battant l'Allemagne 2-1 hier après-midi.
J'avais imaginé qu'on pouvait gagner, mais le scénario du match est incroyable. C'était génial et je me sens comme sur un nuage.
C'est le plus beau but du mondial et c'est le plus beau jour de ma vie. Nous avons attendu ça pendant 4 ans. Vive le Japon !
Voilà, les Japonais fiers de leur équipe. Hier soir, la Belgique a péniblement battu le Canada 1-0. L'Espagne a impressionné 7-0 contre le Costa Rica, premier carton du mondial. Le Portugal de Ronaldo et le Brésil de Neymar feront leur entrée en piste aujourd'hui. Les Bleus préparent leur match de samedi. 17h, ce sera contre le Danemark. Les remplaçants, tiens, jouaient hier un match amical. Ils ont gagné 4-0 contre une équipe qatari. Raphaël Varane était bien là, c'est la bonne nouvelle. Et on constate d'ailleurs avec les chiffres des audiences que les Français, finalement, ne boycotte pas cette Coupe du Monde controversée au Qatar. On en a beaucoup parlé. 12,5 millions de Français devant le match des Bleus. C'était mardi, comme il y a 4 ans, en fait, pour le match d'ouverture. Plus de 5 millions, même pour le tout premier match de la compétition. Ça, c'est mieux qu'en 2018. Nicolas Trénaud a trouvé pour RMC des Français qui avaient prévu de boycotter la Coupe du Monde, mais qui finalement ont renoncé.
Tout a basculé devant le match des Bleus. Le colocataire de Maïssa allume la télé alors qu'elle boycottait le mondial. Et c'est la faute.
J'ai craqué, j'ai regardé la France. J'ai regardé le Maroc jouer aussi. Non, j'assume. Quand t'aimes le sport, t'as envie de regarder. Je pensais que j'allais tenir, au moins j'allais pas regarder les poules, mais non, j'ai craqué.
Complètement craqué, même la fan de foot va quasiment tout regarder avec, c'est vrai, une petite pointe d'amertume.
Tu gardes dans un coin de ta tête quand même, quand t'as fini de regarder le match, tu dis ah oui, quand même, les conditions d'organisation et tout ça, c'est quand même difficile.
Elle n'est pas la seule. Baptiste, lui, ne s'en vante pas. Il assure s'être mis dos à l'écran du bar et n'avoir rien vu.
À part quand il y a les buts. Et les actions.
Bon, rien vu, mais un petit peu quand même. Arnaud s'est lui aussi pris au jeu.
De voir Olivier Giroud qui égalise un record, le fait qu'il puisse le dépasser, c'est des choses qui nous donnent un peu envie de voir la suite.
Dans le camp de ceux qui boycottent, Thomas ne cache pas sa déception.
Je pensais qu'on serait plus nombreux à être dans cette dynamique, de se dire on veut montrer un signe fort, un foot business, ça fait aucun sens cette histoire du Qatar. Plus ça va avancer, plus ça va être entre guillemets une vraie fierté aussi.
Pour le prochain match des Bleus, Thomas sera en forêt sans écran pour résister à la tentation.
Voilà, Nicolas Trénaud avec Pierre Bourgès pour RMC.
En fait, c'est comme Ulysse, quoi. Il va s'accrocher à un tronc d'arbre dans la forêt pour être sûr.
Et en forêt, on capte RMC.
Exactement, on a envie de lui dire vraiment, si vous craquez, vous pouvez toujours écouter le match avec Jean Rességuier. Le Quintet, Quentin.
Le Quintet, à côté de la forêt de Vincennes, 13h50 sur RMC Découverte.
Il y a une forêt à Vincennes.
C'est un bois.
Bon, allez, oui. Le bois. Le 16, le 13, les pronostics de la Dream Team pour RMC. Le 16 en favori Flower Bowl, le 13 en outsider Fée de Rangeval.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 6h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Faut-il interdire la corrida au nom du bien-être animal ou alors la préserver au nom des traditions? La question fera l'objet d'un débat aujourd'hui à l'Assemblée et on le commence ici sur RMC dès ce matin avec vous. J'attends vos témoignages, votre point de vue en un débat au 32-16.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, l'histoire du jour repérée et racontée par le service police justice d'RMC. Ce matin, Marion Dubreuil, vous nous racontez comment un ado a mis en scène son propre enlèvement dans son lycée à Nantes.
Oui, il est 14h ce lundi quand un homme surgit dans une classe de première d'un lycée du centre-ville de Nantes, quelques minutes seulement après la sonnerie. Il est cagoulé, habillé en noir et se dirige immédiatement vers un élève assis au premier rang. Il lui enfile un sac sur la tête avant de le traîner de force en dehors de la salle de classe. Sous les regards médusés de ses camarades et de son professeur, personne n'a eu le temps de réagir, d'après le quotidien Presse Océan. Immédiatement averti, la direction du lycée prévient la police et cherche à joindre les parents de l'adolescent. Des professeurs et surveillants fouillent le lycée de fond en comble pour tenter de retrouver l'adolescent. En vain, tous sont persuadés que le lycéen est en danger jusqu'à ce que l'élève se présente de lui-même au bureau de la vie scolaire. Un peu penaud et dépassé par les conséquences de sa disparition, il explique qu'il s'agissait d'une blague pour son anniversaire. Les policiers n'ont visiblement pas le même sens de l'humour puisque l'adolescent a été conduit au commissariat pour être interrogé. Son complice, un jeune majeur, pourrait être poursuivi pour intrusion dans un établissement scolaire en vue de troubler la tranquillité.
Le récit de Marion Dubreuil du service police-justice d'RMC.
RMC, 6h39.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
T'es une sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous.
C'est votre avis.
C'est votre avis et votre avis, il compte chaque jour sur RMC. Ce matin, l'invité du face-à-face à 8h30, ce sera le député de la France Insoumise, Aymeric Caron. L'ancien journaliste, défenseur de la cause animale, a déposé un texte pour interdire la corrida. Il sera débattu à l'Assemblée aujourd'hui. Alors j'attends vos témoignages tout au long de la matinale et vos questions pour le député de Paris qui sera donc à 8h30 face à moi. Interdire ou non la corrida, le sujet divise à peu près partout. Il est au carrefour des traditions françaises d'un côté et du bien-être animal de l'autre. Voilà ce qu'en disait hier Emmanuel Macron, interrogé au moment de son déplacement au Congrès des maires.
Qu'il y ait des débats dans la société, ils sont légitimes. Moi, je les entends tous. Et il faut qu'il y ait à la fois, on prenne en compte nos spécificités, nos cultures locales, auxquelles sont légitimement attachées certaines régions et beaucoup de nos compatriotes, et la condition animale, la sensibilité qu'elle éveille, en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective, ça marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers un échange.
Bon, c'est un peu du en même temps. C'est-à-dire que... Voilà.
Bah, même s'il dit qu'il n'y aura pas d'interdiction, il ne peut pas chier avec personne.
Mais il dit dès le début qu'il n'y aura pas d'interdiction.
Oui, mais il passe 30 secondes à dire conditions animales, sauf
voilà,
animales.
C'est ça. C'est
mais on ne va pas interdire.
C'est
voilà.
Du et en même temps. Exactement. C'est quand même du et en même temps très, très macronien, non, Nicolas?
Oui, alors on peut remarquer qu'il dit qu'il n'y aura pas d'interdiction. Il me semble que c'est l'Assemblée nationale qui doit en décider. Non,
bah,
il me semble qu'il y a une séparation du pouvoir et qu'il y a un pouvoir législatif. Et que si la mesure était adoptée, la mesure d'Américain était adoptée, il y aurait interdiction.
Et c'est assez étonnant qu'il dise ça la veille, alors qu'il y a une liberté de vote. Précisément sur cette question-là, normalement dans le groupe
Renaissance,
dans le groupe macroniste, ça ressemble à une consigne de la part du président de la République. On en débat avec vous tous. Jean-Jacques est avec nous, qui nous a appelé au 3216. Jean-Jacques Dugard, bonjour.
Bonjour, Pauline.
Comment ça va, Jean-Jacques?
Ben, ça va très bien. Moi, j'aime bien la liberté individuelle. Moi, je suis attaché à ça. Alors après, interdiction, pourquoi pas? Alors, je suis allé voir des corridas.
Oui.
Je suis pas fan. S'ils l'interdisent, bah, ils vont l'interdire. Mais ce qui me dérange, c'est la privation de choisir, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que, il y a quoi? Il doit avoir 2000 taureaux qui doivent être abattus.
1000.
En France, à peu près 1000.
1000 par an, ouais.
Et il y a pas loin de 5000 bovins de tués. Donc, ce qui me dérange encore le plus, c'est qui le porte, Caron. C'est un antispéciste, c'est un vegan. Et au-delà de la corrida, il va avoir un truc derrière, hein. On le voit avec Rousseau. Ça va être le foie gras, ça va être la chasse, ça va être. Mais à ce moment-là, qu'on interdise les courses hippiques.
D'ailleurs, il le dit lui-même, Jean-Jacques. Hein. Il dit, Aymeric Caron, qu'au fond, le plus simple au départ, c'est d'interdire la corrida, parce que pour interdire la corrida, il suffit d'un article de loi et c'est interdit du jour au lendemain dans l'ensemble du territoire. Alors qu'effectivement, son but ultime serait quand même qu'il n'y ait plus d'animaux tués, tout simplement. Jean-Jacques, vous en avez vu des corridas, vous disiez.
Oui.
Vous avez ressenti quoi? Vous avez ressenti quoi dans la
rue? Alors, je suis pas un aficionado, déjà. Mm-hmm. Donc, il y a visiblement des personnes, à Nîmes, hein, évidemment, qui sont spécialisées. Alors, il y a des passes, il y a des faenas, il y a des carolines, des machins, des trucs. Moi, j'y connais que dalle, mais je voulais pas non plus mourir idiot. Et pour en parler, bah, il faut y aller. Mais je respecte, moi, j'ai vu, d'ailleurs, dans la file d'attente, il y avait des anti-corridas qui, bien évidemment, eux, voulaient faire le coup de poing. Et ce qui me dérange, c'est qu'on est toujours dans la violence par rapport, si on est contre.
Alors, ce que vous dit Aymeric Caron, c'est que la violence, elle est contre le taureau.
Oui, non, mais elle est contre le taureau et eux sont contre les hommes. Donc, c'est formidable. Mais bon, de toute façon, ce jeune homme que je respecte pas vraiment, enfin bref, on peut faire un débat
sur... Après la question que vous dites, Jean-Jacques, c'est-à-dire cette question, et c'est un des arguments de ceux qui voteront contre sa proposition tout à l'heure, et c'était l'argument d'un Fabien Roussel qui était mon invité hier, qui est le patron du Parti communiste, qui a beau faire partie du même groupe politique, la NUPES, votera contre cette proposition de loi, parce que précisément, d'abord, un, il estime que c'est pas la priorité, qu'aujourd'hui la priorité c'est les questions de pouvoir d'achat, que en faire une priorité absolue n'est pas la bonne chose, mais aussi, on le sent bien, parce que précisément, il veut défendre un certain nombre de traditions culinaires et qu'il estime que cette première interdiction de la corrida, c'est le début de l'interdiction ensuite du foie gras ou même tout simplement de la viande. Jean-Jacques, restez avec nous, il y a Sandrine qui nous appelle de Vence dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour madame.
Sandrine, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de la corrida?
Alors déjà, le débat pour ou contre m'exaspère.
Alors c'est comme ça que la question sera posée à l'Assemblée.
Oui, il n'empêche que bon, tout noir, tout blanc, ce côté manichéen, c'est de la politique politicienne déjà. Mmh. Alors moi j'ai vécu en Espagne, en Andalousie. Oui. Oui. À Grenade et à Séville, les arènes du point de vue architectural sont magnifiques. Oui. Je n'ai jamais assisté à une corrida parce que pour moi c'est insupportable. Oui. En revanche, l'argument de la tradition, de la culture, je peux l'entendre. Mm-hmm. Et moi la question que je pose, c'est qu'au-delà de cette espèce d'affrontement, puisqu'après on peut aller aussi vers les batteries de porc, de volaille, de
bien
là,
sûr.
C'est aussi insupportable. Et là, c'est une industrie. Hein. Mmh. Donc, moi, je pose la question. J'ai aussi vécu au Portugal.
Oui.
Au Portugal, il y a une alternative. Il n'y a pas de mise à mort.
Il n'y a pas de mise à mort. Alors, c'est le cas d'ailleurs dans toute une partie des départements du sud-ouest de la France. Hein. Les courses landaises, par exemple, dans les Landes.
Oui, c'est des courses de taureaux. C'est de la corrida en arène.
Là, c'est de la corrida en arène, mais qui n'a pas de mise à mort. Donc, c'est quand même, ça ressemble plus à une forme de danse.
Il
n'y
a pas de mise à mort, il n'y a pas de banderille. Mmh. En revanche, la tradition, le costume du torero, tout ça est extrêmement respecté. C'est magnifique, d'ailleurs, parce que là, en revanche, au Portugal, j'y suis allée.
Oui.
C'est magnifique. Et à la fin de la corrida, enfin, il y a un moment, je ne sais plus si c'est à la fin, où vous avez ce qu'ils appellent des apprentis. Ce sont des très jeunes hommes qui, là, affrontent le taureau. Alors, il y a aussi la mise en danger du torero. Hein,
ça, bien sûr.
Voilà, il y a quand même ce côté courage. Moi, ça m'a terrifié. Hein. Il faut un courage énorme. Mais il y a un moment où vous avez des apprentis qui sont de jeunes hommes qui, en fait, affrontent le taureau de face.
Oui.
Le taureau fonce sur eux. Et en fait, ils font des sauts de cabri, mais carrément des sauts de cabri.
Ouais.
Et ils sautent par-dessus l'animal.
Ouais, ça c'est comme dans les courses landaises. Hein. C'est aussi un saut au-dessus de l'animal.
C'est encore pire. Hein. C'est encore plus impressionnant.
Et ça vous a plu. C'est-à-dire que Sandrine, je trouve très intéressant votre point de vue parce que vous commenciez en disant ça peut pas être forcément manichéen et vous en faites la démonstration. C'est-à-dire que pour vous c'est insupportable une mise à mort de taureau et vous n'avez pas souhaité assister à une corrida avec une mise à mort. En revanche, vous avez et on le sent même encore dans votre voix, vous avez ressenti l'émotion et une forme de fascination pour ce combat, cet affrontement entre l'homme et l'animal, ça clairement. C'est
affrontement, il y a l'art, il y a les passes, il y a les costumes, il y a l'ambiance de l'arène, mais il n'y a pas la mise à mort, il y a le courage du torero, de ces jeunes hommes qui sautent par-dessus le taureau, tout ça respecte la tradition, c'est très beau, c'est très courageux, mais en finalité, il n'y a pas la mise à mort.
Mais il n'y a pas la mise à mort.
Pourquoi on n'essaie pas de trouver cette alternative entre les deux, plutôt que ce débat qui est ou tout noir ou tout blanc.
Et ça va être très intéressant d'entendre Aymeric Caron sur ce point-là, parce que Sandrine trouve une solution, une alternative où il n'y a plus la mise à mort. Est-ce qu'Aymeric Caron est prêt à l'entendre ou est-ce qu'il va vous dire « Ah bah non, mais rien que sauter par-dessus le taureau, c'est le maltraiter ». On va voir justement sa position sur ces solutions. Est-ce qu'il est extrémiste dans ses positions ou pas ? Moi, j'ai hâte d'entendre sa réponse.
Merci Sandrine, merci Jean-Jacques. Et n'hésitez pas, évidemment, on poursuit ce débat au 32-16. Donnez-moi aussi vos arguments pour ou contre, puisque je serai avec Aymeric Caron donc à 8h30. Il est 6h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le portrait du jour, Nicolas.
C'est Sophie Adnaud, la nouvelle astronaute française.
Et vos histoires, Charles ?
On va parler d'une célèbre raie, la raie du Morbier.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h52, bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC. Je vous donne le programme de la suite de la matinale. 7h10, révélation exclusive RMC. Une jeune femme porte plainte contre l'hôpital Cochin à Paris. Elle y a été victime d'un viol alors qu'elle était hospitalisée. Son agresseur présumé était sous le coup de deux obligations de quitter le territoire, deux OQTF. L'avocat de la jeune femme est le témoin du jour avec le récit de Guillaume Biais. Ce sera dans 20 minutes. Et puis 7h40, le criminologue Alain Boer nous dévoile sur RMC ses pistes pour sécuriser les stades de foot. Il vient de rendre un rapport commandé par la Ligue de football professionnel. Il nous en expose les premières conclusions. Il est 8h53.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
6h53, bien sûr. Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Sophie Adnaud, la nouvelle astronaute française.
Oui, au départ, ils étaient 22 523 candidats qui rêvaient de devenir astronautes. Et à l'arrivée, ils ne sont plus que 5, dont une française. C'est la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne dévoilée hier. Et c'est un rêve de petite fille qui devient réalité. C'est avec ces mots que Sophie Adno a commenté la nouvelle. Pour être choisie parmi tant de candidats, il fallait un CV en béton, et c'est le cas. Sophie Adno a fait une école d'ingénieur à Toulouse, puis elle a obtenu un diplôme au très prestigieux MIT américain, puis elle est rentrée chez Airbus. Elle travaillait dans un bureau à la conception des cockpits d'hélicoptères. Mais à ce moment-là, elle a décidé d'inverser l'équation, c'est-à-dire de faire des cockpits son bureau. Elle est donc entrée dans l'armée de l'air, elle est devenue pilote de sauvetage de combat, spécialiste en opérations en milieu hostile. Elle a été deux fois en Afghanistan, elle a le grade de lieutenant-colonel, puis elle est devenue ensuite la première femme pilote d'essai sur hélicoptère. Elle cumule 3000 heures de vol sur 22 engins différents. Mais ça ne suffit pas. Pour devenir astronaute, il faut aussi être polyglotte. Et donc, elle parle français, anglais, allemand, russe et espagnol. Il faut aussi, pour être astronaute, être sportif. Elle est parachutiste, diplômée de plongée sous-marine, alpiniste. Non,
c'est extraordinaire.
Et professeur. Professeur certifié de yoga.
Je suis fascinée. Elle est extraordinaire, cette femme.
Et à 40 ans, elle est aussi mère de famille. Elle a un petit garçon.
Inouï. Et hier, elle a rendu hommage à ses modèles.
Oui, Marie Curie, prix Nobel, franco-polonaise. Valérie André, médecin, première femme pilote d'hélicoptère. Caroline Aigle, première femme pilote de chasse, morte trop tôt. Et puis, bien sûr, Claudie Nuret, première et seule astronaute française jusqu'à présent. Sophie Adno avait 14 ans lorsque Claudie Nuret est allée dans l'espace. En attendant son tour, la nouvelle astronaute française va rejoindre le camp d'entraînement européen à Cologne au printemps prochain. Elle devrait ensuite faire un séjour dans la station spatiale internationale vers 2026. Et puis ensuite, tout est possible. Sophie Adno peut raisonnablement espérer marcher un jour sur la Lune.
Magnifique. Mmh. Franchement, quel parcours inouï. Je suis quand même assez fascinée par une chose, c'est qu'avec une telle exigence, il y a quand même eu 22 523 candidats. Mmh. Ça veut dire qu'il y a eu 22 523 personnes de ce calibre-là.
À peu près, ouais.
Extraordinaire. 6h55, c'est les histoires de Charles.
Les histoires de Charles.
On retombe sur terre avec vous, hein, Charles, si je peux me permettre, parce qu'on va parler fromage ce matin et l'arrêt du Morbier qui est désormais protégé.
Ouais, on connaît tous hein, le Morbier, ce fromage du Jura, avec en son cœur cette raie cendrée qui fait sa renommée, une marque visuelle, une raie centrale et horizontale qui fait l'identité du Morbier. Eh bien, le syndicat interprofessionnel du Morbier a obtenu gain de cause. Et oui, c'est une victoire. Son AOP qui protégeait déjà la recette va être élargi à cette raie centrale, trop souvent copiée et plagié. Alors ce trait du Morbier n'est pas lié à un processus de moisissure, contrairement à ce que beaucoup pensent. Bon, non, mais à la présence d'une fine couche de charbon végétal. La tradition remonte au XVIIIe siècle. Il n'est donc plus question aujourd'hui de la copier ou de la plagier. Une victoire pour le syndicat du Morbier qui rappelle, je cite, que cet trait est unique et inimitable.
Ça vous a plu cette histoire, hein, Charles, je sens.
Le plaisir de pouvoir dire le mot raie 22 fois en une minute. J'avoue que je ne l'ai pas boudé. Ouais.
Je vous demande pardon, oui. Vraiment, nous sommes sur RMC et RMC Story, tout cela est très digne.
Et c'est factuel.
C'est l'arrêt.
L'info.
Morbier, hein. Toujours de l'info. Il est 6h56, ça tout de suite justement pour la météo et le journal de 7h.
Jeudi 24 novembre,
l'info sur RMC.
Il est 7h, tout pile, sur RMC et RMC Story. Bonjour à tous, excellent réveil. C'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Adrien Quatennens, pour l'instant écarté de l'Assemblée nationale. Décision de la France insoumise hier après de nouvelles révélations de violences conjugales. Un crime contre l'humanité, les mots de Volodymyr Zelensky hier, alors que l'Ukraine était touchée par une pluie de missiles provoquant des coupures massives d'eau et d'électricité. Et puis on vous emmène ce matin au Qatar, dans les logements des supporters du Mondial. Ils pensaient dormir à l'hôtel. La réalité est beaucoup moins reluisante, vous le verrez.
Mais d'abord, ce cri de détresse ce matin sur RMC, celui d'une boulangère.
Alexandra Faure, boulangère dans le Doubs à Val d'Aon. Sa facture d'électricité va passer de 1 500 à 3 500 euros par mois au 1er janvier. Elle s'inquiète pour la survie de son commerce et ne veut pas se résoudre à augmenter les prix de sa baguette.
Pour moi, la baguette, c'est la base de l'alimentation française. Et déjà aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés, mais que demain, tout le monde puisse pas se payer un morceau de pain, je me dis, c'est le début de la fin, en fait. Et c'est impossible d'être rentable. Impossible. On a beau refaire tous les calculs. Voilà, je suis pas la pire. J'ai entendu des témoignages de collègues qui voient des fois 5 appliqués à leur facture. Là, aujourd'hui, c'est de nous qu'on parle, mais tous les pressings, tous les bouchers, tous les agriculteurs, toutes les petites entreprises de la métallurgie... tous ceux qui utilisent du matériel énergivore, on va connaître une crise sans précédent et la chute va être d'une extrême violence parce que ça va aller très très vite, très très vite. Dans 2 ou 3 mois, fin février, il y aura énormément d'artisans et de commerçants qui auront mis la queue sous la porte et ça je vous le garantis, si rien ne se fait, ça va aller très très vite.
Témoignage RMC ce matin. On en vient à l'affaire Quatennens. Adrien Quatennens, le député numéro 2 de la France Insoumise, ne retournera pour l'instant pas à l'Assemblée nationale. Décision prise par les Insoumis hier, à la justice de trancher après les nouvelles révélations de son épouse. Dans un communiqué publié hier, Céline Quatennens a dénoncé des violences physiques et morales depuis plusieurs années. Une version contestée par le député du Nord. La France Insoumise, qui préparait le retour d'Adrien Quatennens, a dû rapidement changer de braquet.
Dans la même pièce, une vingtaine d'insoumis divisés en deux camps. D'un côté, les plus nombreux, les proches d'Adrien Quatennens qui travaillaient depuis plusieurs jours à son retour. Et de l'autre, quelques élus, très féministes. Pour une fois, on a pris le temps de débattre, décrit un participant pendant plus de deux heures. Ils ont cherché à rédiger un communiqué commun. Et selon nos informations, la première version non publiée soutenait plus fermement Adrien Quatennens. Finalement, un compromis est trouvé, mais à la sortie de la réunion, des députés sont gênés, certains même mal à l'aise avec l'idée de conditionner son retour à la décision de justice. On sait que la parole des femmes est rarement entendue par les tribunaux, s'agace une participante. Quant à la question de l'exclusion d'Adrien Quatennens du groupe, elle s'est bien posée, mais opposition catégorique des députés les plus influents, comme si malgré la polémique depuis maintenant plus de deux mois, il était toujours impossible de se séparer complètement de l'ancien numéro 2 du mouvement.
La France Insoumise qui lance aujourd'hui le débat sur la corrida à l'Assemblée nationale. 80 députés ont signé une proposition de loi pour l'interdire au nom de la souffrance animale, ce qui a fait réagir Emmanuel Macron hier. Pas d'interdiction pour le président de la République qui prône plutôt la conciliation. Cette découverte macabre à présent, c'était hier près de Rennes. Un couple et leur fille de 26 ans ont été retrouvés morts dans leur pavillon à Saint-Jacques-de-la-Lande. Dans une lettre qui reste à authentifier, le père de famille retrouvé pendu avoue les meurtres et attribue son geste à un mal-être en lien avec une maladie grave. Irène était leur voisine, elle est sous le choc ce matin.
Ben, il avait des problèmes de santé dans la vie, mais il avait rebondi. Il s'est reparti pour un tour qu'il nous disait. C'était atroce. C'est la première fois qu'on a un drame comme ça dans notre coin. On est contre trois d'un coup. C'est l'horreur. On entend ça ailleurs, mais là, ça nous frappe. C'était des bons voisins. Tous les deux, ils étaient très, très agréables. Ils étaient toujours prêts à rendre service. Je vous jure que ça fait mal au cœur. Ça me fait de la peine, comme si c'était de la famille.
Et c'est une information RMC, une plainte déposée contre l'hôpital Cochin à Paris. Plainte contre X après un viol commis aux urgences. Le suspect est un homme sans papier qui avait repéré sa victime quelques heures avant son hospitalisation. On y revient tout de suite après votre journal. Attention, attention, la grippe arrive. Une grippe virulente en plus. Et vous êtes nombreux à ne pas vous être fait vacciner. 4 millions de doses administrées contre 5 millions l'année dernière à la même période. Une inquiétude, la surcharge des hôpitaux, bronchiolite, Covid. On ne peut pas se permettre d'avoir une triple épidémie, dit ce matin le président de la Fédération hospitalière dans le journal Le Parisien.
RMC 7h04 en Ukraine, des coupures massives d'eau et d'électricité.
Hier, les infrastructures du pays ont été touchées par une pluie de missiles, 70 missiles russes selon l'armée ukrainienne. Les bombardements ont fait 6 morts. Hier, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Volodymyr Zelensky, le président, a dénoncé un crime contre l'humanité. À Kiev, les températures sont déjà glaciales et la vie quotidienne peut vite devenir un enfer. Nicolas Repère pour RMC.
Les prochains jours vont être compliqués, redoute Alina, une habitante de Kiev. Sans eau ni électricité chez elle et à son bureau où elle travaille toute la journée, elle sait qu'elle va devoir s'adapter.
L'eau, c'est plus important que l'électricité, mais on a fait déjà des stocks d'eau, donc on va trouver des solutions parce que maintenant, on est plus organisé.
Venu s'abriter dans le métro, Dmitro redoute un durcissement des conditions de vie dans la capitale ukrainienne.
Les gens ont déjà pris leurs précautions, ils ont tous des lampes solaires, etc. Alors on s'organise comme on peut, on verra ce qui se passera par la suite, mais bien évidemment, nous attendons de nouvelles attaques.
Alors que les températures sont négatives en ce moment en Ukraine, priver des civils de biens de première nécessité est un crime de guerre, résume l'historien militaire Cédric Mass.
Viser les infrastructures électriques pour priver les Ukrainiens, les populations civiles ukrainiennes de chauffage, eh bien c'est clairement la volonté de transformer la vie des Ukrainiens en enfer. C'est formellement prohibé.
Pour le moment, le chauffage fonctionne encore, mais beaucoup d'habitants de la capitale redoutent des coupures.
Et Emmanuel Macron a annoncé avoir un contact direct avec Vladimir Poutine dans les prochains jours. En Chine, deuxième nuit d'affrontement sur le site de la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde, entre les ouvriers de Foxconn et les forces de l'ordre. On apprend ce matin que la zone vient d'être confinée en raison de l'épidémie de Covid.
Il est 7h06 sur RMC, direction le Qatar.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Nouveau coup de théâtre hier, victoire 2-1 du Japon contre l'Allemagne. Nouvelle grosse surprise donc. L'Espagne aussi a écrasé le Costa Rica 7-0. Plus compliqué pour la Belgique qui s'est imposée difficilement 1-0 face au Canada. Les Bleus, eux, se sont entraînés avant le match face au Danemark. Ça sera samedi à 17h à vivre en direct sur RMC. Et les supporters dans tout ça, vous allez le voir, ça peut être compliqué. Ils ont eu des mauvaises surprises. On a pu accéder à leur logement. Ils pensaient dormir à l'hôtel et pas du tout. Ils se sont retrouvés dans le désert, dans des containers. Visite avec Léna Marjac.
Alain, supporter français, fait découvrir son logement.
Là, il y a la petite salle de bain qui, je trouvais, est grande. C'est très bien et c'est très propre. C'est nettoyé aussi tous les 3 jours.
Pour certains, tout semble correct, mais un peu plus loin sur le fan village, encore des travaux et tout d'un coup, la caméra n'est plus la bienvenue.
Votre travail est de montrer les choses positives ou les choses négatives ?
Cet homme en chemise grise se dit être un responsable du site. Il demande à ce que les images du tournage soient supprimées.
Si vous les supprimez, ça serait vraiment bien. Je ne veux pas que des personnes racontent des choses fausses.
Il y a donc quelque chose à cacher. La caméra est rangée. C'est à l'iPhone que le tournage se poursuit.
La salle de bain, c'est top. Il y a une fuite d'eau qui vient. Alors, on ne sait pas trop si ça vient des toilettes ou de la tuyauterie.
C'est le logement d'Yvan, un fan français.
Le lavabo, c'est moi qui l'ai lavé avec la main. Il était tout noir.
Youssef aussi a eu de mauvaises surprises en arrivant.
Il n'y a pas de serviette, pas de drap, pas d'électricité, la clim elle marche pas, c'est un petit peu compliqué quoi.
Et il a préféré partir du fan village et aller à l'hôtel.
Et puis, deux chiffres, 12,5 millions de téléspectateurs devant leur télévision, devant le premier match des Bleus avant-hier soir. Voilà, beau record d'audience et aussi un autre chiffre que je voulais vous communiquer, celui des ventes de petits catalogues Panini, pour le coup, qui est en recul par rapport à 2018. On l'apprend ce matin dans 20 minutes. Alors, on peut évidemment l'expliquer par un tournoi qui se déroule entre la rentrée et Noël et surtout avec une inflation à gérer, donc on a peut-être un peu moins de sous à mettre dans ce genre de petits goodies.
Ça aurait pu être un petit cadeau de Noël, de pré-Noël.
Ouais, de pré-Noël.
Voilà, pré-Noël, c'est ça. C'est pas la même saison. Oui, pas tout à fait la même impression. C'était le journal de Marguerite Dumont, il est 7h09 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Apolline.
Amélie, vous avez été contactée à l'adresse RMC pour vous @rmc.fr par un auditeur en arrêt de travail qui ne touche aucune indemnité.
Oui, Hélène, c'est un tout jeune papa. Il vit avec sa compagne et leur bébé de 7 mois près de Montpellier. Et les fins de mois sont de plus en plus compliquées. Employé agricole en CDD, Hélène a subi un accident de travail le 22 août dernier, une lombalgie suite au port d'une charge lourde. Les douleurs étaient telles que son arrêt a duré 3 mois et il n'a toujours pas touché ses indemnités maladie.
On privilégie avant tout notre enfant, évidemment. Après, nous, on se restreint beaucoup pour l'enfant, mais la situation est vraiment critique, quoi. Pour manger, pour se déplacer en voiture, pour mettre du gasoil. Alors, à 30 ans, enfin, j'estime ne plus avoir besoin de ma maman, surtout pour acheter les couches et le lait de mon fils, quoi, ni même ses habits. Donc, c'est gênant comme situation. Dès le réveil, la première chose à quoi je pense, c'est regarder ma banque si j'ai un virement. Ça ronge.
L'arrêt maladie d'Hélène s'est terminé hier, mais il n'a pas pu reprendre le travail car en plus, entre-temps, son CDD a lui aussi pris fin et l'entreprise ne l'a pas renouvelé.
Qu'est-ce qui se passe, Amélie ? Pourquoi est-ce que notre auditeur ne touche pas ses indemnités ?
Alors, Hélène dépend de la Sécurité sociale agricole, la MSA, puisqu'il est employé d'une entreprise agricole. Il a transmis à l'organisme tous les documents nécessaires, mais à ce jour, il n'a reçu qu'un simple virement de 124 euros. Pourquoi ? Mystère. Lorsqu'il a relancé la MSA, la réponse qu'il a obtenue tient en 3 mots. Délai de traitement. Sauf qu'en attendant, sa situation financière, vous l'avez compris, devient critique. Ce mois-ci, il n'a pas pu payer son loyer, pas plus que son crédit auto. Sa banque a donc transmis le dossier à un huissier.
Est-ce que vous avez pu aider, Hélène ?
Oui, et on est très contents. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a contactés. La MSA est revenue vers nous hier. La situation d'Hélène est en cours de résolution. Il va percevoir la totalité de ses indemnités, soit à peu près 2000 euros dans les jours à venir. On nous l'a confirmé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et l'organisme nous a expliqué le problème. Notre auditeur, en fait, il relève à la fois du régime général et de la MSA. C'est d'ailleurs souvent le cas lorsqu'on enchaîne les CDD dans différents secteurs d'activité. Et il y a eu, nous dit-on, une mauvaise circulation des informations. Grâce à nous, en tout cas, la MSA a identifié comment résoudre ce problème, à la fois pour Hélène, mais aussi pour tous les autres adhérents qui peuvent se retrouver dans la même situation parce qu'ils ont travaillé dans différents secteurs d'activité et que donc, pour par exemple un accident de travail, il relève de la MSA, mais pour un arrêt maladie simple, il relève du régime général.
Vive l'administration française. J'avoue que voilà. J'ai l'impression d'être dans Astérix quand ils sont en train de courir dans tous les étages pour essayer d'avoir le bon formulaire.
C'est Amélie qui court.
Heureusement, oui, c'est Amélie qui court, qui court dans les étages à la recherche du formulaire dans le bureau B412 au fond du couloir. Merci Amélie. Pour Hélène et pour vous tous, RMC pour vous, @rmc.fr. Il est 7h12.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre cette révélation RMC, une plainte déposée contre l'hôpital Cochin à Paris. Une patiente y a été violée par un sans-papiers qu'il avait repéré dans un bar, qu'il a suivi jusqu'à l'hôpital. L'avocat de la jeune femme est le témoin du jour dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC, vous êtes bien dans Apolline Matin.
Le témoin RMC.
Et le témoin RMC, c'est vous ce matin, Maître Alexandre Laubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat d'une femme qui vient de porter plainte contre l'hôpital Cochin à Paris, une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. On va en parler dans un instant avec vous, mais d'abord, pour bien comprendre cette affaire, nous sommes aussi avec Guillaume Biais. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service police-justice d'RMC. C'est vous qui révélez ce matin cette affaire en exclusivité. Cette femme qui porte plainte contre l'hôpital Cochin, elle a été violée aux urgences par un prédateur présumé.
Oui, ça s'est passé fin octobre à Paris. Une jeune femme de 34 ans, que nous appellerons Isabelle, passe la soirée dans un bar en bord de Seine et sous l'effet de l'alcool, elle fait un malaise à la sortie, elle tombe, traumatisme crânien, elle perd connaissance. Pendant qu'elle est inerte au sol, en attendant les pompiers, un homme rôde autour et la regarde avec insistance. D'après les témoins, on aurait dit un mort de faim, raconte l'un d'eux, à tel point qu'un agent de sécurité a dû l'éloigner. Isabelle, elle est finalement emmenée par les pompiers à l'hôpital Cochin, où elle est admise aux urgences, dans un box individuel. Une heure plus tard, les pompiers sont rappelés devant le bar, car cette fois, c'est le fameux rôdeur qui simule un coma éthylique du cinéma, selon le patron du bar. Mais il est quand même pris en charge par les pompiers, qui le conduisent, lui aussi, à Cochin. Dès que l'infirmière a le dos tourné, il quitte sa chambre. Il va de box en box. Une première fois, il est intercepté dans le couloir, ramené à sa chambre. Mais quelques minutes plus tard, il ressort et il retrouve Isabelle endormie sur son lit. Il lui vole alors sa carte bancaire et il commet ensuite un viol. La jeune femme se réveille, elle crie. Son agresseur réussit à s'enfuir de l'hôpital avant d'être arrêté par les policiers de la BAC une heure plus tard, alors qu'il venait d'utiliser la carte de sa victime dans une épicerie. Il nie les accusations de viol. Néanmoins, il est mis en examen et incarcéré.
Et Guillaume, quel est le profil de cet homme?
Alors, c'est un homme qui est en situation irrégulière, qui est sous le coup de deux OQTF, deux obligations de quitter le territoire. Il se présente comme étant jordanien, âgé de 22 ans et serait arrivé en France en 2019. Mais comme il n'a pas de papier, quand il est interpellé, à chaque fois ou presque, il donne une fausse identité. D'après nos informations, il est connu dans les fichiers de police sous 13 noms différents. Il a déjà été arrêté plusieurs fois pour vol, recel, usage de drogue. Il a aussi été soupçonné de viol sur mineur il y a 2 ans, mais l'affaire a été classée sans suite, nous a indiqué le parquet. Pour toutes ces affaires, il n'a jamais été jugé, aucune condamnation. Je vous le disais, donc, il a reçu 2 obligations de quitter le territoire cette année. La première en janvier, la dernière en juillet. Mais ces 2 ordonnances ont été délivrées sous des identités différentes qui sont peut-être fausses, ce qui expliquerait pourquoi cet homme n'a jamais été expulsé.
Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir en effet 2 OQTF, mais effectivement 2 identités différentes. Merci Guillaume pour ce récit. Maître Alexandre Laubry, vous portez donc plainte contre l'hôpital Cochin. Qu'aurait pu, qu'aurait dû faire à vos yeux l'hôpital pour protéger votre cliente?
Je vous remercie pour votre invitation. En effet, nous portons plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui aux côtés de mon confrère Maître Laura Bécassis et en concertation avec ma cliente, puisque ma cliente, elle a eu un double traumatisme. Un traumatisme en raison d'effets criminels dont elle a subi, et un autre traumatisme en raison du lieu. Un établissement public hospitalier, généralement...
Une situation de vulnérabilité.
Voilà, on y est pour être soigné et être en sécurité. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Nous voulons comprendre, nous voulons la vérité. Y a-t-il eu des défaillances dans l'obligation de surveillance incombant à l'établissement public hospitalier?
Il a une obligation de surveillance, l'établissement hospitalier?
Selon le code de la santé publique, tout établissement public de santé a une obligation de surveillance.
Est-ce que vous estimez que l'État aussi a une forme de responsabilité? Guillaume le racontait à l'instant, le présumé coupable était sous le coup de 2 obligations de quitter le territoire, aucune des 2 donc n'ayant été suivie de fait. Est-ce qu'à vos yeux, l'État a une forme de responsabilité aussi de ce point de vue-là?
Alors, je ne pourrais commenter une instruction qui est en cours au regard du secret de l'instruction, mais cela pose question.
Et votre cliente, comment elle se porte aujourd'hui?
Alors, vous imaginez bien que lorsqu'on est victime de ces faits, on a un état post-traumatique, un état de stress post-traumatique. Alors, il y a plusieurs phases. Au début, une phase de déni, une phase d'admission. Mais aujourd'hui, elle veut découvrir la vérité. Elle veut comprendre ce qui s'est passé.
Et c'est pourquoi vous portez donc plainte aujourd'hui. Merci Alexandre Lobry. Donc vous êtes l'avocat de cette jeune femme. Guillaume Biais, pour son récit, chef du service police-justice d'RMC. Il est 7h19.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre, autoriser les fumigènes, arrêter les matchs à huis clos. À 7h40, le criminologue Alain Bauer vient dévoiler sur RMC les pistes de son rapport, le rapport qu'il a remis hier pour sécuriser les stades de foot. Et puis dans un instant, il y aura l'économie avec Emmanuel de Chypre et puis Arnaud Demange qui nous rejoint pour pirater le 32-16.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Mais tout de suite, les indiscrets RMC, le rendez-vous du service politique d'RMC. Bonjour Jérémy Trottin.
Bonjour Apolline.
Jérémy, votre indiscrétion, c'est que le ministère de la Culture tente de sauver les festivals de l'été 2024 en même temps que les JO.
Oui, des festivals que Gérald Darmanin avait lui-même pourtant enterrés le 25 octobre dernier pour concentrer les forces de l'ordre sur la sécurité des Jeux Olympiques. C'était sans compter la levée de boucliers du monde de la culture et du ministère de la rue de Valois. Après discussion avec l'Élysée, le gouvernement cherche désormais à préserver au maximum ces festivals. Des réunions hebdomadaires ont lieu à Matignon pour affiner le dispositif. Les festivals de moins de 3000 personnes ne sont plus du tout concernés par les interdictions et les reports, et les choses sont en train de s'organiser pour les grands événements.
Et comment le gouvernement s'y prend ?
Alors, selon nos informations, le gouvernement a élaboré un calendrier durant la première phase entre le 20 juin et le 18 juillet 2024. Et c'est la bonne nouvelle, les grands événements devraient finalement pouvoir se tenir, et ce malgré le passage de la flamme un peu partout en France. Cela pourrait donc passer pour les Eurocaine de Belfort ou le Hellfest. En revanche, pendant les épreuves, entre le 18 juillet et le 11 août, priorité absolue sera donnée à la sécurité des Jeux et des 11 millions de touristes attendus. Les vieilles charrues pourraient donc devoir avancer leur date. Des discussions sont en cours. Autre phase critique, celle de la fin de l'été jusqu'au 8 septembre. Durant cette période, très peu d'événements devraient être maintenus en Île-de-France.
RMC, Apolline Matin.
7h23 sur RMC et c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, l'INSEE vient d'évaluer l'impact de toutes les mesures prises par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Alors quel est le verdict ?
Eh bien, ça portait sur toutes les mesures qui avaient des effets sur les années 2020-2021. Verdict, grâce à ces mesures, les Français en moyenne ont gagné 280 euros.
Et comment l'INSEE arrive à ce chiffre ?
Alors d'abord, il y a toutes les mesures comme la baisse de l'impôt sur le revenu, avec la baisse du taux de la première tranche, notamment il y a la suppression progressive de la taxe d'habitation. Ensuite, on peut citer la revalorisation de certaines prestations sociales. Et enfin, des mesures ponctuelles et exceptionnelles comme les aides de solidarité, la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, le chèque énergie de 100 euros et l'indemnité inflation de 100 euros aussi. Et il faut bien préciser donc que ce sont des mesures à la fois qui étaient dans le programme d'Emmanuel Macron, plus des mesures exceptionnelles qui ont été prises pour faire face à l'inflation. Et donc, on arrive à ces 280 euros de pouvoir d'achat en plus.
Mais justement, ces 280 euros de gain de pouvoir d'achat, c'est une moyenne. Elle cache des fortes inégalités.
Absolument. Et l'INSEE démontre que la moitié des ménages les plus aisés a davantage profité de ces mesures que la moitié la plus pauvre. Quand vous étiez parmi les plus aisés, c'est 420 euros de gain. Si vous êtes dans la moitié des ménages français les moins favorisés, c'est 130 euros seulement de gain.
Comment on arrive à cette disparité ?
Eh bah bien, parce que...
Les volumes consommés ?
Oui, non, la réponse est assez simple. C'est qu'en fait, dans toutes ces mesures, celle qui pèse le plus lourd sur ces quasiment 13 milliards d'efforts budgétaires, eh ben c'est la baisse de l'impôt sur le revenu. Et qui paye l'impôt sur le revenu ? Eh bien, ce ne sont pas les foyers les plus modestes qui ne sont pas imposables. Même constat pour la disparition progressive de la taxe d'habitation qui a profité à la classe moyenne en 2000 et à la classe aisée en 2021.
Les explications d'Emmanuel de Chypre. Et tout de suite, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demanche pirate le 32-16.
Demanche pirate le 32-16. Bonjour Arnaud. Arnaud, vous êtes passé par le standard. Et ce qui fait réagir, c'est cette déclaration d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, au sujet de la réforme de l'assurance chômage. 18 mois, dit-il, 18 mois, c'est suffisant pour retrouver un travail.
Je ne veux pas travailler.
Alors les avis sont très très partagés. En gros, vous avez ceux qui disent que c'est largement suffisant pour ces grosses feignasses et ceux qui trouvent que c'est un scandale et que tout le monde finira SDF. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux sur un débat comme celui-là. Martine de Dreux nous a laissé. Bonjour Madame de Malherbe.
Je suis une maman comme vous. Mon fils s'appelle Simon, il a 15 ans. Et alors entre sa PlayStation, ses mangas et ses copains, 18 mois, c'est le temps qu'il m'a fallu pour lui faire faire un CV et une lettre de motivation. J'imagine que vous avez les mêmes difficultés avec vos grands à vous.
Tout à fait, Madame Martine Dedon.
Charles, Simon est ton fils. Je n'ai jamais osé te l'avouer. Peux-tu lui expliquer comment on fait pour se lever tôt le matin ?
Je vois qu'il tient de moi, ouais.
Le ministre du Travail chinois a réagi. 18 mois, c'est suffisant pour travailler. J'étais dans une usine textile hier et tous les ouvriers avaient environ 18 mois et ça se passe très bien. Olivier Dussopt, notre ministre du Travail, a soutenu son collègue Olivier Véran et il nous a laissé... On a 400 000 emplois dont personne ne veut dans ce pays. Tenez, j'ai des annonces là, j'en prends une au hasard. Recherche ouvrier du bâtiment en horaire nocturne, 75 heures par semaine, week-end compris, 1135 €. Formidable, voilà, ça c'est du challenge. Une autre, recherche manipulateur de plutonium à main nue dans la centrale du Tricastin. Fantastique. Si on veut du travail, on en a. Hein. Si on aime être payé au SMIC et faire des semaines de 55 heures, on en trouve même en une journée du travail. Et puis, Éric Ciotti nous a laissé... Bonjour RMC. Écoutez, je soutiens Olivier Véran. On peut trouver un emploi en 18 mois. Mon ex-femme, je lui ai même trouvé 5 emplois en 6 mois. C'est une question de volonté. Vous voyez, c'est clivant. C'est clivant.
Allez, clivant, à tout à l'heure. Droite, gauche. À tout à l'heure. Arnaud Demanche qui est à 7h20 et à 8h20 sur RMC et bien sûr sur l'application en podcast. Il est 7h27. Il est 7h30 sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le gros retard de la campagne de vaccination contre la grippe cette année, les plus fragiles ne se font pas vacciner et les pharmaciens, vous les entendrez, alertent. La piste d'un guet-apens dans le Pas-de-Calais, 3 jours après le meurtre d'un agent des impôts. Et puis les surprises qui s'enchaînent à la Coupe du Monde de football. Les Allemands ne digèrent pas leur défaite de 1 contre le Japon.
La grippe est de retour et pourtant les Français ne se font pas vacciner.
5 régions sont en phase pré-épidémique, comme on dit, tous les indicateurs sont dans le rouge et les pharmaciens alertent. Pourquoi ? Parce que la campagne de vaccination est en retard de 20% par rapport à l'année dernière, surtout chez les personnes âgées les plus fragiles qui étaient pourtant prioritaires jusqu'à la mi-novembre. Vous allez tout comprendre avec Caroline Philippe pour RMC.
Avec son bon de la sécurité sociale à la main, Colette, 70 ans, se renseigne pour se faire vacciner.
J'aurais pu le faire avant parce que c'est depuis le 18 octobre que je pouvais le faire. Voilà. Je voulais attendre pour faire les deux, la Covid, la quatrième dose et la grippe.
Et Colette n'est pas la seule retardataire. Son pharmacien, Éric Mion, enregistre 20% de vaccinés en moins par rapport à la même date l'an dernier. La campagne s'accélère seulement ces derniers jours.
Plusieurs personnes arrivent parce que tout d'un coup, ils ont retrouvé le papier contre la grippe. Mais c'est aussi surtout l'effet météo, le fait qu'il fasse un petit peu plus froid en ce moment. Les gens, j'imagine, font l'association grippe et hiver et donc se disent que c'est le bon moment.
La météo et surtout la fatigue générale des Français envers la vaccination, voilà les deux principales explications d'un retard qui inquiète Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
La grippe, cette année, va être très dure. Et donc, pour les personnes fragiles, il est essentiel de renouveler son vaccin une fois par an, à l'automne. C'est maintenant.
Et il n'est pas le seul à s'inquiéter. Le ministère de la Santé craint un pic épidémique que l'hôpital public ne serait pas en mesure d'absorber.
Il est 7h32 et on a de nouveaux éléments ce matin sur RMC concernant la mort d'un agent des impôts tué au couteau par un brocanteur. C'était lundi dans le Pas-de-Calais. Sa collègue, elle avait été ligotée. Lucille Pascanet, vous avez discuté pour RMC avec des collègues de la victime et on comprend que les agents du fisc sont tombés dans un véritable guet-apens.
Dès sa première rencontre avec les agents, les échanges sont tendus. Après des années à frauder la TVA, le fisc lui impose un redressement de 100 000 euros dont il s'acquitte rapidement. Mais il continue de resquiller. Un nouveau contrôle externe est prévu cet été. Chez lui, la fonctionnaire est très mal reçue. L'individu ne supporte pas de se faire à nouveau contrôler. Elle se rend donc au deuxième rendez-vous accompagnée pour garantir sa sécurité. Cette fois, son confrère et le brocanteur en viennent presque aux mains. Lundi, l'inspectrice devait présenter ses conclusions financière, accompagnée par son chef de brigade, et ce, 2 semaines après la date prévue, repoussée par le suspect qui s'était dit incapable d'y faire face psychologiquement. Une information qui fait froid dans le dos aujourd'hui, selon l'un de leurs collègues inspecteurs. Lorsque les agents arrivent sur la grange, de grandes lettres forment les mots « tu banques ». Ce jour-là, le suspect tue le contrôleur et séquestre sa collaboratrice.
Les Insoumis veulent interdire la corrida, proposition de loi du député Aymeric Caron, invité ce matin à l'RMC à 8h30. Elle sera examinée aujourd'hui à l'Assemblée, mais peu de chances que ça aboutisse, ce n'est pas la priorité. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron hier devant les maires. En prenant position sur ce dossier, le dossier de la corrida qui est autorisée dans 12 départements du sud de la France au nom de la tradition. Encore une grève sur les salaires. Cette fois, ce sont les gaziers de GRDF qui se mobilisent depuis plusieurs semaines. Avec des conséquences dommageables pour 1500 foyers qui n'ont rien demandé et qui n'ont plus de chauffage et plus d'eau chaude. Victor Joannin pour RMC.
Les particuliers qui ne reçoivent plus de gaz pour se chauffer sont notamment ceux qui viennent d'emménager et qui attendent d'être raccordés au réseau, faute d'agents disponibles. Ce sont surtout des résidents d'Île-de-France, une région où la mobilisation à l'appel de la CGT est très suivie. Le syndicat est numéro 1 chez GRDF et son représentant Éric Gauthier regrette ses conséquences pour les particuliers.
Quand l'usager est impacté, c'est toujours embêtant. Maintenant, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que face à la direction, on a une porte complètement fermée. On se bat aussi pour retrouver des emplois pour assurer un meilleur service public au service de l'usager. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises à la direction. Le problème peut être réglé en quelques minutes.
De son côté, la direction estime que ce mouvement est mené par une minorité de salariés et s'en tient à l'accord déjà signé. Le préavis de grève court jusqu'à la fin de la semaine prochaine, mais il pourrait être prolongé, prévient déjà la CGT.
Des soucis, de gros soucis même dans les trains, le trafic qui sera interrompu au moins jusqu'à samedi dans le sud entre Narbonne et Castelnaudary. Après le déraillement hier d'un train de marchandises, ça concerne notamment les TGV Toulouse-Lyon et les intercités de la longue ligne Marseille-Bordeaux. À la Coupe du Monde, ce matin.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Coupe du Monde avec la presse allemande qui parle d'une catastrophe, même d'une débâcle ce matin. On a vécu la deuxième surprise du mondial hier. Alors, pas de la même ampleur que l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, mais quand même le Japon qui a battu l'Allemagne 2-1. Ousmane Dembélé n'en revenait pas quand les journalistes au Qatar lui ont appris la nouvelle.
Énormément de surprises finalement dans cette compétition. On a vu l'Argentine, l'Allemagne, là, vient de perdre face au Japon.
Hein?
On a vu, oui.
Ah oui. Je pense que maintenant dans le football d'aujourd'hui, il y a pas de petite équipe. Si tu baisses un peu d'intensité, tout le monde sait jouer au foot, tout le monde travaille la tactique. Et non, il faut pas baisser l'intensité. Quand tu baisses l'intensité maintenant dans le football, tu te fais surprendre directement.
Alors, pas de surprise pour l'Espagne, hein, qui hier soir qui a écrasé le Costa Rica 7-0, premier carton de cette compétition. C'était plus difficile pour la Belgique, 1-0 contre le Canada. Et tous les regards seront braqués aujourd'hui à 17h sur le Portugal de Cristiano Ronaldo contre le Ghana. Ronaldo qui a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Hein. Son contrat vient d'être résilié à Manchester, il ne fait plus du tout l'unanimité. Ça fait beaucoup, hein, Nicolas Jamin, pour RMC. Est-ce que ça perturbe les Portugais ?
Absolument pas, affirment tous ses coéquipiers qui défilent les uns après les autres en conférence de presse depuis 5 jours. Ronaldo s'est alors présenté devant les médias et a ordonné « Ne posez plus de questions sur moi à mes coéquipiers, mon équipe est blindée, ça ne va pas l'ébranler ». Pourtant le pays ne parle que de ça ou presque. Ronaldo a éclipsé un temps l'enjeu de ce mondial pour une équipe qui rêve de remporter une première Coupe du Monde. Et on ne touche pas au quintuple ballon d'or, bien que sur le déclin à bientôt 38 ans, à court de forme et auteur seulement de 3 buts cette saison. Il n'est pas question de remettre en cause sa place dans l'équipe et le buteur se s'est soutenu. Cette semaine à l'entraînement, il a retrouvé le sourire loin de l'Angleterre, déterminé à décrocher le seul titre qui manque à sa carrière et il sera évidemment titulaire aujourd'hui face au Ghana.
Et puis encore un chavirage, tiens, sur la route du Rhum, il reste des concurrents en mer, c'est le marin belge Gilles Beckenhout qui a dominé sa catégorie, et bien son bateau s'est retourné, il est en bonne santé, c'est la bonne nouvelle, ce matin il a été récupéré dans la nuit par un cargo.
Et puis le quintet, Quentin, c'est à Vincennes.
À 13h50 sur RMC Découverte, vous en avez l'habitude. Les pronostics ce matin de la Dream Team, le 16 et le 13. Le 16 en favori Flower Ball, le 13 en outsider Fée de Rangeval.
C'était le journal de Quentin Vinelli, 7h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Comment en finir avec les violences dans les stades de foot en France? C'était la question qui vous avait été posée, Alain Boer. Bonjour. Vous êtes criminologue et vous venez de remettre un rapport à la Ligue de football professionnel, rapport qui vous avait été commandé. Vous nous dévoilez vos propositions, c'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h40 sur RMC, bon réveil à tous.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Alain Bauer. Bonjour. Vous êtes professeur de criminologie. On va parler avec vous de ce rapport que vous avez remis hier. On vous avait commandé, la Ligue de football professionnel, vous avez commandé un rapport sur la sécurité dans les stades en France. Et puis, on va revenir avec vous aussi sur la situation d'hyperviolence. Voilà ce que disent certains, notamment après l'assassinat de cet agent du fisc. Mais d'abord, le rapport que vous avez remis hier, il y a eu beaucoup de ratés dans les mois qui viennent de s'écouler. La finale de la Ligue des Champions au Stade de France, évidemment. Trop de débordements, notamment en Ligue 1. Le championnat reprend le 28 décembre. Qu'est-ce que vous préconisez pour que ces scènes de violence qui deviennent presque habituelles disparaissent?
Alors d'abord, il y en a eu un certain nombre qui se sont atténués ou qui ont quasiment disparu. On parle relativement peu de la violence dans les stades, même bien avant l'ouverture du Mondial. Donc il y a eu un pic et une descente, on va dire. Deuxièmement, on a surtout interrogé les acteurs du terrain. D'habitude, on interroge les institutions pour savoir ce qu'elles devraient faire ou ce qu'elles voudraient faire. On demande aux acteurs du terrain.
Et en général, elles ne veulent pas faire grand-chose, du coup.
Alors, ça s'est un peu amélioré, il faut reconnaître. Notamment l'affaire Stade de France, l'UEFA a créé une sorte de choc. À la fois parce qu'il y avait, c'était une compétition internationale, même récupérée à la dernière minute en raison du conflit Russie-Ukraine. Et puis, c'est surtout parce que les JO arrivent et que il y a une inquiétude généralisée sur la capacité à gérer des événements d'une telle ampleur. On était parti de l'a priori que la France savait faire et qu'on avait besoin de rien faire, et maintenant on est parti dans l'inverse et on ne sait plus faire. Donc le terrain a pris la main, et le terrain a beaucoup d'idées. On est passé à peu près d'une idée de prêt-à-porter général, où il fallait tout sécuriser, tout fermer, exclure les supporters qui étaient des adversaires, des ennemis, qui étaient des empêcheurs de tourner. En fait, le vrai match de football, c'est celui où il n'y aurait personne à part les joueurs, et encore.
Et on s'est retrouvé avec des matchs finalement quasiment.
Et donc l'idée générale est de faire l'inverse.
C'est-à-dire, il y a un partenariat qui est possible.
Les supporters ne sont pas des adversaires, ce sont des partenaires. Il y a toute une série de choses qu'ils savent faire avec les clubs. Au niveau local, il y a toute une série d'opérations sur mesure qui fonctionnent. Prenons ce que sont les meilleures pratiques. Prenons ce que sont les accords. Qu'est-ce qui pose problème? En fait, il y a trois choses qui posent problème. Le premier, c'est l'absence totale de coordination intelligible en fonction du niveau des matchs et du niveau local. Si c'est un match international, c'est plutôt l'UEFA ou la fédération ou le préfet. Si c'est un match national, c'est plutôt la Ligue ou la fédération. Il y a toute une série d'acteurs et il n'y a plus de cadre national depuis 20 ans. Il y avait un cadre national dans les années 2000, il a disparu.
Et donc il faudrait le recréer aujourd'hui.
Et tout le monde est d'accord.
D'accord, donc ça,
non
c'est
seulement
un point
le créer au niveau
consensus
national, mais le décliner au niveau local. Comme on a des contrats locaux de sécurité, on va proposer des contrats locaux de sécurité des stades. Car les stades, ce n'est pas seulement le foot. C'est toute une série d'autres manifestations, y compris des manifestations non sportives.
Alain Bauer, vous disiez les supporters ne sont pas des adversaires. Comment faire pour distinguer parmi les supporters ceux qui posent problème et les autres?
Alors c'est tout le problème. En fait, les supporters disent on en a marre des sanctions collectives car vous ne faites pas le tri, mais on n'aime pas la manière dont vous imaginez de faire le tri. Le débat est assez simple. Il y a toute une série de clubs qui ont trouvé des méthodes pour faire le tri, pour régler une série d'interdictions d'accès. Sauf que l'État a sous-traité les interdictions judiciaires en interdictions commerciales, qui sont plus ou moins respectées, plus ou moins applicables, dont on peut se demander d'ailleurs si la légalité est aussi structurée que ça. Alors qu'on
pourrait... Il faudrait faire dans la dentelle ?
Il faut faire dans le sur-mesure, mais on a des moyens. Par exemple, on a vu avec le concert d'Ed Sheeran au Stade de France après le désastre de l'UEFA, comment on pouvait gérer une entrée, un accès, des dizaines de milliers de personnes, une application mobile qui permettait...
Si je peux me permettre, c'est pas le même public qui va voir Ed Sheeran, c'est familial, c'est plus calme, parfois moins agité que des supporters de foot.
Oui, ça se discute.
C'est un public particulier, le foot.
Bon, les grands concerts, j'ai quelques souvenirs de moments où ça se terminait pas très bien. Donc, voilà. Non, je veux dire, la méthode qui a été utilisée pour le concert Ed Sheeran peut marcher pour toute une série de choses.
En tout cas, le lieu avait été mal géré, oui, effectivement, pour la Ligue des Champions, parce que ça a été aussi un problème, en effet, d'accès,
exactement,
de porte d'accès.
D'accès, mais d'identification. Dans ce cas précis, le problème est autant la gestion des accès, la périphérie, la périmétrie, c'est-à-dire la manière dont on rentre dans le stade, et le compartimentage, le fait d'identifier et d'isoler les perturbateurs. En fait, il y a une évolution. C'est qu'avant, il y avait des hooligans. Les hooligans, c'était des amateurs de football violents. Aujourd'hui, il y a des purs violents qui n'aiment même pas le football. Et donc, il faut commencer à faire le tri. Et on ne peut le faire qu'avec les groupes de supporters, y compris les ultras. Et paradoxalement...
Donc, il faut travailler avec eux, y compris avec les ultras, vous dites.
Oui,
il ne faut pas
sûr,
les rejeter, il faut au contraire
travailler ensemble. On a eu l'occasion de leur parler. Autant les institutions dites représentatives ont dit « Ah non, on ne veut pas s'engager, on ne veut pas vous parler ». Autant tous les autres ont dit mais on a des choses à dire, et parce qu'on a des pratiques locales qui sont extrêmement utiles et extrêmement efficaces. Et puis le troisième élément, c'est la pyrotechnie, l'animation du stade. Il y a un décret en préparation qui permet l'expérimentation de la pyrotechnie dans des conditions qui ne sont pas interdire
quand
l'animation.
Vous dites la pyrotechnie, c'est les fumigènes.
Les fumigènes, oui, bien sûr. C'est pas interdire les fumigènes, c'est faire en sorte qu'ils ne soient pas dangereux, parce que si 15 supporters finissent grillés à l'hôpital, la pyrotechnie, elle va durer 2 heures. Donc, la question là aussi est d'avancer sur quelles sont les modalités d'acceptation de ça. Et transformer ça dans un débat avec les supporters change la donne. Donc, un niveau national, un cadre national de référence, une application locale pour faire en sorte que tout ceci fonctionne entre les clubs et leurs supporters, les villes, les collectivités territoriales, et pas seulement pour les rencontres de football. Et puis, une application avec les groupes de supporters sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et la manière de faire en sorte que les voyous ne prennent pas le football en otage au détriment des supporters, même ultra.
Vous disiez, il y a des violents qui n'aiment même pas le football. Est-ce que si on dézoome de la question des stades et qu'on parle de ce mot d'hyperviolence qui a été prononcé notamment par des collègues de cet agent du fisc qui a été assassiné, dont ils ont dit il a été victime de l'hyperviolence, est-ce que vous retiendriez ce mot d'hyperviolence à un bon?
Non, pas plus qu'en sauvagement, je retiens le mot de violence. Il y a en France un climat de violence qui n'est pas seulement une interprétation faite à cause des faits divers et du focus fait sur un événement tragique. Il y a, en 2004, on a assassiné un inspecteur du travail et sa collègue de la Mutualité Sociale Agricole. C'était un événement absolument tragique. On a assassiné une psychiatre il y a quelques années parce qu'elle avait signalé la violence et l'hyperviolence là, de l'individu. La société, elle est de plus en plus violente parce qu'on le signale avec ce qu'on appelle l'homicidité. Les homicides et les tentatives d'homicide. Ils ont connu une explosion au cours des 15-20 dernières années dans des proportions assez inattendues en France, qui est un pays où on meurt peu, ou en tout cas on mourait de moins en moins. Il y a une inversion de tendance, un cycle nouveau et un climat de violence qui est une réalité et qui concerne non seulement des porteurs d'uniformes, ce qui était assez traditionnel, policiers, gendarmes, éventuellement militaires pour Vigipirate, mais maintenant les pompiers, les médecins, les postiers et les individus. Sans aucune
représentant du service public.
Représentant au sens large du service public, sans prendre le drame et la tragédie du professeur Paty, là qu'on est dans le terrorisme, mais il y a désormais une violence généralisée car il n'y a plus de médiation. On passe directement au point parce qu'on ne se parle plus, on se frappe. Parce que c'est plus rapide, plus efficace et puis ça défoule. Et il y a là une réalité généralisée dans la société.
Et c'est votre regard, donc Alain Boer, vous qui êtes professeur de criminologie. Merci d'être venu dévoiler les conclusions de votre rapport sur la violence dans les stades et plus globalement donc sur la violence. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La criminologie pour les nuls. Il est 7h48, violence aussi, mais question de corrida. Puisqu'on en débat tout au long de cette matinale avec mon invité tout à l'heure à 8h30, Émeric Caron, qui veut faire interdire la corrida. Richard nous a appelé au 32-16 depuis Mont-de-Marsan dans les Landes. Les Landes qui est une terre taurine, comme on dit. Bonjour Richard.
Oui, bonjour Apolline. Bonjour à tout le monde. À
Oui, Richard, vous êtes infirmier
et
vous aimez la corrida.
Absolument, voilà. Mais effectivement, j'appartiens à une terre taurine avec une culture spécifique à cette région. La corrida en fait partie, il y en a tant d'autres. Je souhaitais effectivement intervenir ce matin au sujet de ce débat de la tauromachie. Puisque ce matin, j'ai écouté avec un grand intérêt les témoignages. Et lorsqu'on évoque la corrida, qui est un vaste sujet, on ne peut pas aussi se laisser aller à des approximations. J'ai entendu un petit peu des choses qui méritent quelques rectifications.
Allez-y, Richard.
Dans les contre-vérités. Puisque j'ai entendu cette auditrice qui évoquait effectivement que au niveau de la corrida portugaise, les taureaux n'étaient pas mis à mort dans l'arène, certes. Ils le sont après. Et il faut savoir qu'en corrida, chaque discipline taurine donc a sa spécificité. Je vous ai entendu aussi Apolline évoquer la course landaise que je connais très bien, et on ne saute pas les taureaux, ce sont des vaches.
Donc
ça méritait un petit peu un éclaircissement pour que les gens puissent se faire.
Et la question de la mort, question de la mort, Richard, parce que c'est quand même autour de ça que ça tourne, ça dit que.
Oui, tout à fait. Alors,
la spécificité de la corrida, c'est effectivement qu'il y ait la mort sous les yeux des spectateurs dans l'arène. C'est intéressant aussi, vous, votre regard infirmier qui soigne, qui sauve, et qui pour autant considère que la mise à mort d'un taureau au milieu d'une arène, ça a sa place dans nos traditions.
Mais je dirais qu'en fait, la corrida, elle reste fidèle, à inclure la mort dans un art de vivre. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est cela qui nous apprend justement à être ce que nous sommes, à aimer la vie. Et que la tauromachie, c'est un moment de vérité. Elle se détourne pas, vers un contexte propice à toutes les controverses.
C'est très fort vos mots. Merci Richard, en tout cas pour vous. Inclure la mort dans un art de vivre, on l'a bien compris. Vous vouliez donner des précisions et des arguments. Tout à l'heure, 8h30, mon invité, ce sera donc Émeric Caron qui veut interdire la corrida et qui le fera à l'Assemblée aujourd'hui, les 7h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et dans un instant, on reviendra notamment sur... je vous demande pardon, ce sera les explications de Nicolas. La Chine qui ne parvient pas à se débarrasser du Covid. La révolte gronde contre les confinements à répétition dans le pays. Expliquez-nous. Nicolas Pancaré, c'est dans un instant.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Beyoncé qui fait son entrée à Normal Sup.
À Normal Sup, c'est ce matin qu'à la prestigieuse école va s'ouvrir le séminaire baptisé Beyoncé, nuance d'une icône culturelle. À travers toute une série de cours et de conférences, vous pourrez, je cite, attention, appréhender dans un ancrage pluridisciplinaire les problématiques que soulève l'orientation artistique de Beyoncé, aussi bien à travers l'histoire de l'art, les littératures contemporaines, l'histoire ou la philosophie. Vous avez 3 heures et même plus, puisque ce vaste programme va s'étaler jusqu'au mois de février. Et si vous n'êtes pas complètement rassasié, si vous voulez approfondir et poursuivre votre cursus, vous pouvez filer à l'Université de New York qui propose lui un séminaire sur Taylor Swift.
RMC, Apolline Matin.
7h54, l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. La politique du zéro Covid en Chine semble atteindre ses limites. La population de plusieurs grandes villes a manifesté son ras-le-bol des confinements et des restrictions.
Oui, le mouvement de colère le plus spectaculaire a eu lieu hier dans la plus grande usine du monde de fabrication d'iPhone. Elle est située à Zhengzhou, dans la province du Henan. Elle emploie entre 2 et 300 000 personnes, jusqu'à 300 000 personnes, donc qui sont logées sur place pour la plupart dans des dortoirs. Et depuis le mois dernier, l'usine est confinée à cause d'une augmentation du nombre des cas de Covid. Un certain nombre d'employés ces derniers jours ont réussi à s'enfuir du site, mais hier, de violents incidents ont éclaté. Des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré des ouvriers face à des policiers anti-émeute et face à des hommes en tenue blanche de protection. Sur les vidéos, on voit des hommes avec le visage en sang. On entend crier « Attention, ils frappent les gens ». On voit aussi des cabines qui servent au dépistage du Covid et qui ont été détruites par ces manifestants. Difficile de savoir précisément ce qui a déclenché cette révolte. Il est question d'une prime qui a été supprimée. On évoque aussi les conditions de vie dues au confinement. On parle aussi du fait que des employés positifs au Covid auraient continué à travailler pour faire face à la forte demande d'iPhone 14 à quelques semaines des fêtes. Mais en tout cas, c'est bien une révolte sur fond de Covid à laquelle on assiste. Révolte rarissime dans les usines chinoises.
Et cela au moment où la ville de Pékin se reconfine.
Oui, on vient d'annoncer la fermeture de toutes les écoles et des magasins non essentiels. Ça rappelle quelque chose, des magasins non essentiels dans certains quartiers de la capitale. Dimanche, les employeurs ont reçu pour consigne de mettre en télétravail un maximum de leurs employés. Les parcs et les musées ferment aujourd'hui. Les tests PCR redeviennent obligatoires. Sans parler des immeubles ou des quartiers où l'on applique un strict confinement. Cela représente plusieurs centaines de milliers de Pékinois qui sont enfermés chez eux. C'est donc un retour en arrière décidé à cause d'une augmentation des cas. Mardi, on a comptabilisé 1200 personnes testées positives pour 22 millions d'habitants à Pékin. C'est très peu, très très peu par rapport à ce qui se passe en Europe, mais c'est tout de même un record en Chine depuis le début de la pandémie. De même, la ville de Pékin vient d'enregistrer le décès de 3 personnes âgées. Officiellement, ce sont les premiers morts depuis le mois de mai dernier, d'où ce nouveau tour de vis.
Terrible nouveau tour de vis. C'est la Chine qui est donc le dernier pays qui pratique la politique du zéro Covid. Les explications de Nicolas Poincaré, tous les jours 7h50 et à tout moment sur l'application RMC avec les podcasts. Dans un instant, la météo, le journal de 7h avec cette révélation RMC. Plainte déposée contre l'hôpital Cochin après l'agression d'une jeune femme. Le suspect était sous le coup de 2 OQTF.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Jeudi 24 novembre.
L'info sur RMC.
Il est 8h, très bon réveil, très belle matinée à vous tous. Vous êtes bien dans Apolline Matin sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du journal, Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. RMC vous le révèle ce matin, une plainte déposée contre l'hôpital Cochin à Paris. Une jeune femme admise aux urgences a été violée par un faux patient. L'interdiction de la corrida débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Proposition de loi de la France insoumise. Et puis on ira prendre des nouvelles des Bleus en direct depuis Doha à 2 jours du match contre le Danemark.
Une plainte déposée contre l'hôpital Cochin à Paris, RMC vous le révèle ce matin.
Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Fin octobre, une jeune femme a été violée alors qu'elle venait d'être admise aux urgences. Bonjour Guillaume Bié.
Bonjour.
Chef du service police-justice d'RMC, vous avez enquêté. Le suspect, un homme sans papier, avait repéré sa victime juste avant son hospitalisation.
Et oui, quand cette jeune femme fait un malaise à la sortie d'un bar et qu'elle tombe inanimée, un homme rôde et la regarde avec insistance d'après des témoins. Les pompiers emmènent la victime à l'hôpital Cochin et une heure plus tard, ils reviennent devant le bar car cette fois, c'est le rôdeur qui est au sol. Il simule un malaise selon des témoins, mais les pompiers le conduisent lui aussi à Cochin. Là, il quitte sa chambre et retrouve la jeune femme inerte. Il la viole et s'enfuit après lui avoir volé sa carte bancaire. Alors, au-delà des faits, l'un des avocats de la victime, maître Alexandre Laubry, porte plainte contre l'hôpital Cochin.
Ma cliente, elle a eu un double traumatisme. Un traumatisme en raison d'effets criminels dont elle a subi, et un autre traumatisme en raison du lieu. Un établissement public hospitalier, on y est pour être soigné et être en sécurité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Tout établissement public de santé a une obligation de surveillance.
Guillaume, on a aussi des éléments sur le profil de l'agresseur.
Oui, il se présente comme étant jordanien, âgé de 22 ans et serait arrivé en France en 2019. C'est un homme en situation irrégulière. D'après nos informations, il était sous le coup de 2 OQTF, 2 obligations de quitter le territoire, délivrées cette année sous 2 identités différentes. Il a été mis en examen et écroué.
Information RMC de Guillaume Bié, chef du service police-justice. La corrida dans l'arène de l'Assemblée. La France insoumise veut l'interdire. La proposition de loi portée par le député Émeric Caron, invité d'Apolline, à 8h30, doit être débattue aujourd'hui. Texte qui a peu de chances d'être adopté. Même le président de la République l'a prédit hier. Il n'y aura pas d'interdiction et ce n'est pas la priorité. La corrida considérée comme un art de vivre dans le sud de la France. Les jeunes toreros ne sont pas du tout prêts à renoncer à leur passion dans leur école de formation à Garon près de Nîmes. Le reportage d'Estelle Henry pour RMC.
Ce sont 2 collégiens pas comme les autres qui ont un rêve en commun.
Mon objectif, c'est d'être matador de taureau.
Mais moi, pareil que lui, mon rêve, c'est de devenir matador de taureau, mais comme les grands.
Ici, Clovis et Rémi s'entraînent 2 fois par semaine avec une 20aine d'autres apprentis matadors. Ils enchaînent les gestes techniques avec toujours un objectif en tête, se mettre à la place du taureau.
Avant de savoir taurer, il faut savoir faire le taureau, parce que comme ça, au moins, on apprend comment le taureau y voit. On est sensible à sa souffrance, bien sûr.
Nous, on veut pas qu'il souffre.
Valentin, 19 ans, lui, a déjà tué des taureaux. Il réfute l'idée d'une forme de sadisme avancée par les anticorridas.
Parce qu'eux, ils voyaient la vision de la mort du taureau, les banderies, la pique. Mais il n'y a pas que ça. Nous, si on le tue, c'est pas par plaisir, parce qu'on a envie de tuer. On n'est pas des tueurs, bien au contraire. Moi, je ferai pas de mal à une mouche.
Des apprentis que forme Patrick Varin, ancien matador. Pour lui, le vrai tueur, c'est surtout le taureau de combat.
Il faut qu'on revienne quand même à connaître l'animal, le taureau. Ça fait 500 ans qu'il est sélectionné pour le combat. Ils sont là pour tuer. Moi, j'ai eu des copains, ils y sont restés. Hein. La mort, pour nous, elle n'est pas dans une barquette aux prises uniques. Hein.
Depuis la rentrée 2022, le Centre français de tauromachie n'a jamais eu autant d'élèves.
Les insoumis qui profiteront aussi de cette journée pour faire inscrire l'IVG dans la Constitution. La France insoumise qui doit dans le même temps gérer l'affaire Quatennens, il ne retournera pas sur les bancs de l'Assemblée nationale. Décision prise hier par les responsables LFI à la justice de trancher après les nouvelles révélations de son épouse. Dans un communiqué, Céline Quatennens a dénoncé des colères, des violences physiques et morales depuis plusieurs années. Une version contestée par le député du Nord. Au sein de la NUPES, certains élus veulent aller plus loin. Le porte-parole des députés socialistes, Arthur Delaporte, réclame carrément le départ d'Adrien Quatennens.
Adrien Quatennens doit démissionner. Il n'a plus sa place à l'Assemblée nationale. Cette accusation, finalement, même si on peut dire qu'en droit, il faut attendre le procès, elle jette un soupçon sur l'éthique et sur le comportement d'un responsable politique. Et donc, il ne peut plus avoir sa place dans les rangs de la NUPES qui défend des valeurs féministes et notamment le fait de croire dans la parole des femmes. En l'occurrence ici, on a l'expression de la parole d'une victime et il faut la prendre en considération et en tirer les conséquences.
Attention, la grippe arrive, une grippe virulente. 5 régions déjà placées en stade pré-épidémique et vous êtes nombreux à ne pas vous être fait vacciner. 4 millions de vaccinés depuis un mois et demi, depuis le début de la campagne de vaccination, contre 5 millions l'an dernier. Les autorités sanitaires craignent la surcharge des hôpitaux. C'est la journée de la précarité énergétique. Au moment où les prix de l'énergie ont augmenté de 28% sur un an, les associations s'inquiètent de plus en plus de ménages, pas forcément en plus en situation de précarité, se privent de se chauffer. C'est le cas de ce couple qu'a rencontré Marilyn Notman pour RMC. Ils vivent dans l'heure et leur logement est une passoire thermique.
Dans l'appartement que loue ce couple d'enseignants, les 4 pièces sont toutes mal isolées.
Et là, on est où ?
Dans la salle de bain.
Je crois que la fenêtre est mal collée au niveau du mur. Évidemment, pour chauffer cette pièce-là, c'est quasiment impossible.
On a très froid.
Seule la chambre à l'étage est chauffée, mais quelques heures par jour.
On a le chat qui se cache tout le temps dans la chambre, c'est là où il fait le plus chaud.
Concrètement, là, si vous laissiez tous les chauffages allumés...
Essayer d'atteindre les 18-19 degrés, on serait à minimum 500 euros pour un mois.
Une situation qu'ils ont du mal à accepter.
En salaire net, on est autour des 1800-1900 euros. C'est assez affligeant de voir qu'on fait partie de la classe moyenne, on n'est pas à plaindre, mais on a quand même beaucoup de mal à se chauffer. Donc moi, j'imagine même pas les gens qui sont vraiment en grosse difficulté économique en général.
La flambée des prix de l'énergie fait plonger de nouveaux ménages dans la précarité énergétique. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, lance l'alerte.
On n'est qu'au début de la hausse des prix de l'énergie. Il n'y a aucun économiste qui pense que les prix de l'énergie vont chuter en 2023 ou 2024.
L'an prochain, les factures de gaz et d'électricité vont encore gonfler. Le gouvernement a promis de limiter la hausse des prix à 15%.
Et J-2 avant le deuxième match des Bleus contre le Danemark.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Avec en ligne de mire la qualification pour les 8e de finale. Aujourd'hui, conférence de presse et entraînement au programme. On retrouve en direct de Doha Fabrice Hawkins, l'un des envoyés spéciaux de RMC. Fabrice, avec le forfait de Lucas Hernandez, la défense est toujours en chantier. Ce qui amène Didier Deschamps à tester des options assez surprenantes.
Il faut de tout pour faire une équipe et le problème de la défense des Bleus, c'est qu'il n'y a presque plus de gauchers, donc Didier Deschamps a essayé le milieu, Eduardo Camavinga au poste d'arrière gauche. Une première pour le joueur, c'était lors d'un match amical hier soir contre le club qatarien d'Al Gharafa. Le bricolage de Didier Deschamps a plutôt bien fonctionné puisque dans son nouveau rôle, le milieu du Real Madrid a marqué un but. Le sélectionneur obligé d'être un peu créatif avec la blessure du défenseur Lucas Hernandez mardi soir. Un Hernandez pour en remplacer un autre puisque c'est son frère Théo qui sera titulaire, mais derrière il n'y a plus personne. Dans le staff, on croise les doigts pour que Théo Hernandez reste en bonne santé, mais si la malchance se poursuit, c'est Eduardo Camavinga qui pourrait découvrir un nouveau poste.
Merci beaucoup Fabrice Hawkins en direct depuis Doha. Et aujourd'hui c'est l'entrée en lice du Brésil contre la Serbie, ça sera à 20h et avant cela le Portugal joue contre le Ghana à 17h, match à suivre en direct sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. On va maintenant faire la connaissance de la toute nouvelle recrue de l'Agence Spatiale Européenne, Sophie Adnaud, 40 ans, bourguignonne, un CV exceptionnel. Elle est ingénieure, pilote dans l'armée et surtout elle a été choisie parmi 22 000 candidats pour devenir la deuxième femme astronaute française de l'histoire après Claudie Aigneret, un de ses modèles d'ailleurs. Le spatial, elle en rêvait depuis enfant.
C'est un moment assez incroyable que certes j'ai rêvé depuis petite fille, mais le rêve il devient même pas concret aujourd'hui parce qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe en réel. J'y ai travaillé, ouais, j'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours rêvé en fait du spatial depuis très longtemps. C'est un nouveau monde, c'est beaucoup d'inconnus, mais bon, je le prends avec beaucoup d'optimisme et de simplicité. Bon, je vais apprendre le job au fur et à mesure.
L'annonce a été faite hier depuis le Grand Palais éphémère à Paris. Une promo de 5 nouveaux astronautes qui va succéder à celle de Thomas Pesquet. Un peu de patience avant la mise en orbite, probablement à partir de 2026.
Elle est assez fascinante quand même, cette nouvelle astronaute avec un pédigré inouï. Il est 8h09, c'était le journal de Marguerite Dumont.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et dans un instant, c'est Thierry Marx qui sera avec nous. Thierry Marx, le chef étoilé, il défend son parti pris. Il vient d'être élu à la tête du premier syndicat de restaurateurs, l'UMIH. Et sa toute première interview, c'est sur RMC dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
8h13 sur RMC, belle matinée à tous.
Le parti pris.
Le parti pris, c'est le vôtre ce matin, Thierry Marx. Bonjour.
Bonjour.
Thierry Marx, vous êtes chef étoilé et désormais vous êtes le patron. Vous avez été élu il y a un mois à la tête du principal syndicat des restaurateurs, l'UMIH, qui tient son congrès en ce moment. Merci d'avoir choisi RMC pour cette interview. Beaucoup de sujets brûlants. D'abord, l'énergie. Vous avez demandé un effort aux fournisseurs d'énergie pour aider les restaurants et les hôtels. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause?
Alors, j'ai pas encore obtenu gain de cause sur cet effort que j'ai demandé, mais la pression est excessive sur les professionnels, bien évidemment. On voit des factures multipliées par 8, donc ce qui est insupportable pour beaucoup d'entreprises. En arrivant, en plus, il y a l'effet ciseau, ce qui arrive, l'effet ciseau du PGE, des remboursements de PGE, l'augmentation des coûts des matières premières, et là, une augmentation du coût de l'énergie qui est extra forte, je dirais.
Ça devient une sorte de double coup près, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir rembourser ces prêts garantis par l'État et au même moment, ces factures d'électricité qui explosent.
Exactement, on a des gens qui passent de 40 000 euros, des confrères et des consoeurs qui passent de 45 000 euros une facture à 100 000 euros. Enfin, ça devient complètement fou. Ils redoutent cela et ils redoutent de ne pas pouvoir ouvrir leur établissement avec un tel coût de l'énergie. Alors, c'est très inégal. On est en train de faire remonter département par département toutes les informations dont nous avons besoin pour être force de proposition auprès du régalien pour essayer d'être un peu mieux entendu et un peu mieux compris.
Et vous devenez donc la voix, en effet, de ces restaurateurs, Thierry Marx. Mais ce matin, on entendait Alexandra, qui est boulangère dans le Doubs, qui était avec Charles à 6h10 ce matin, et qui disait c'est une catastrophe, y compris pour nous les boulangers, pour tous les artisans. Et elle prévoyait que dans les tout prochains mois, elle disait ça va venir très vite, en février-mars, on va s'écrouler et on est nombreux à envisager de mettre la clé sous la porte. Thierry Marx, est-ce que certains restaurateurs vous disent cela? Est-ce qu'ils vous disent on a peur début de l'année là?
On a des restaurateurs, des hôteliers restaurateurs en milieu rural comme en milieu urbain qui nous disent ça va pas être possible, on passera pas, on ne pourra pas ouvrir, on ne pourra pas assurer le remboursement de ce que nous devons. Encore pire pour ceux qui sont nouveaux chefs d'entreprise, qui ont acheté leurs affaires il y a 4 ou 5 ans, qui ont renégocié ou qui sont en phase de renégociation de leur contrat d'énergie. Donc les boulangers évidemment disent cela et ils ont raison, et nous avons la même remontée des départements et des régions qui nous disent c'est catastrophique pour certains d'entre nous, parce que alors c'est très inégal, mais c'est catastrophique pour certains d'entre nous. Nous ne passerons pas l'hiver.
Nous ne passerons pas l'hiver, voilà ce cri du cœur. Thierry Marx, une autre difficulté qui s'ajoute à celle-là, c'est celle du recrutement. Est-ce qu'il manque encore du personnel dans les hôtels et les restaurants?
Il manque encore du personnel dans les restaurants. La saison arrive, nous avons besoin de saisonniers et il faut effectivement continuer la formation professionnelle très accélérée pour pouvoir former des personnes qui peuvent intégrer des postes qui sont à disposition dans les métiers d'hôtellerie-restauration et les métiers du tourisme.
Une question aussi sur le plafond du ticket restaurant. Il est passé à 25 euros. Il y a d'autres syndicats de restaurateurs, dont le Groupement National des Indépendants, qui appellent à ce que le ticket restaurant ne serve qu'au restaurant et qu'il ne soit pas possible de l'utiliser pour simplement faire ses courses dans n'importe quel Franprix ou G20. Qu'est-ce que vous dites à ça, Thierry Marx?
Bien, ça s'appelle ticket restaurant, c'est pas un chèque d'aide d'achat alimentaire, donc il faut respecter un peu les engagements et faire en sorte que ce ticket restaurant aille à destination pour les restaurateurs, bien évidemment. Mais on peut prévoir et étudier d'autres formes de tickets, mais pas restaurant, qui s'appellerait autrement. Mais là, effectivement, les restaurateurs se sentent un peu floués par ce ticket restaurant qui ne leur revient pas finalement.
Qui ne leur revient pas. Thierry Marx, merci en tout cas d'avoir réservé quelques mots. Vous êtes chef étoilé donc et désormais le patron du groupement principal syndicat des restaurateurs, l'UMIH. Vous étiez depuis Brest où se tient votre congrès, mais je vous attends bien sûr en studio, en plateau, dès que vous serez de retour à Paris, les 8h17.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous. Dites donc, il a changé Emmanuel Le Chypre. Il a été transformé en Nicolas Poincaré. Comme ça, pouf, c'est la magie. C'est le plus grand cabaret du monde. C'est génial. C'est génial. Il y a Nicolas Poincaré qui va nous faire sa prochaine chronique en jonglant sur un tricycle en imitant Louis Funès. C'est génial. Putain, j'ai hâte de voir. Vous nous faites ça tout à l'heure.
Moi aussi, j'ai hâte de voir.
Alors, Apolline, vous interrogez Émeric Caron ce matin. Les Insoumis sont évidemment embarrassés sur l'affaire Quatennens. Vous avez vu, il devait revenir à l'Assemblée nationale. Et patatras, sa femme réaffirme que les violences physiques et morales ont duré plusieurs années. Vous voyez, Éric Ciotti et François Fillon, bon, ce qu'ils font, c'est pas très moral. Mais au moins, quand ils entraînent leurs meufs dans leur déboire judiciaire, c'est parce qu'ils l'ont mise bien quand même. Hein. Des petits boulots fictifs pépères, il y a de la thune, des restos aux frais du contribuable. Escrocs, mais féministes, les gars. Pénélope, elle a eu la belle vie quand même.
Et puis elle a bossé quoi. C'est-à-dire c'est pour le travail des femmes. Le réseau de fournisseurs d'énergie RTE, Arnaud, qui alerte sur de possibles coupures d'électricité en janvier.
Oui, mais relativisons. On redoute ça parce qu'on est douillet. Voilà, mais en Tchétchénie ou en Sibérie, ils le vivraient vachement mieux que nous. Hein. Les mecs, ils se baignent sous la glace, ils boivent du gasoil au petit-déj, ils se battent à main nue avec des ours pour rigoler. Tu leur annonces qu'il y aura moins de chauffage, ils réagissent pas comme nous, clairement. On devrait s'en inspirer. Alors, il y a bien une solution à laquelle personne n'a pensé, que je soumets à votre approbation, l'hibernation générale. C'est-à-dire que le gouvernement nous file un puissant sédatif. On dort tous du 1er janvier au 3 mars, ça consomme pas d'électricité et on est super en forme pour le reste de 2023. Personne a envie de bosser en janvier, non, autour de cette table. Apolline, sérieux, est-ce que vous avez envie d'interviewer Stanislas Guérini ou Sébastien Chenu un matin de janvier? Non, soyez honnête.
Un matin de janvier.
Mais oui, à chaque fois que j'entends parler d'ailleurs de possibles coupures d'électricité, je pense à ces pauvres gens qui sont au chevet d'un parent malade à l'hôpital. Écoute, papy, je voulais te dire un truc. Je pense que... Papy, il est mort. Papy. Ah putain, non. C'était le courant. T'inquiète pas, papy, ils ont basculé sur leur générateur. Donc, je voulais te dire, concernant l'héritage, moi je crois que c'est mieux si... Oh. Non mais là, c'est chiant, là, à la fin. On sait pas qui va flancher le premier, si c'est le DF ou si c'est papy.
Arnaud, oui. Par ailleurs, notons que 24 réacteurs nucléaires sont toujours à l'arrêt.
Oui, malgré les efforts d'Agnès Pannier-Runacher, notre ministre de la Transition énergétique, pour faire accélérer les choses. D'ailleurs, nos équipes se sont procurées un document exclusif. On écoute. EDF, bonjour.
Oui, bonjour, je m'appelle Agnès Pannier-Runacher et j'avais une question au sujet de la gestion des énergies à faibles émissions. Mes centrales nucléaires ne fournissent aucune tension, je peux pas alimenter mes habitations.
Très bien, Madame Pannier-Runacher.
Non, c'est Pannier-Runacher.
D'accord, Madame Pannier-Runacher. Vos centrales, vous avez essayé de les débrancher puis de les rebrancher. Je suis pas sûr que ce soit une solution.
Je kiffe. Et puis vous vouliez, Arnaud, nous parler d'une prouesse médicale, une patiente toulousaine qui s'est fait greffer un nez.
Ouais, elle s'est pas fait greffer, la pauvre. C'est pas une prouesse médicale, c'est juste de manger des gâteaux.
Elle s'est fait greffer un nez imprimé en 3D qu'on a d'abord greffé sur son bras pour la vascular. Et c'est...
Oui. Vous avez très bien décrit cette opération, Apolline, c'était merveilleux. Très grande vulgarisatrice médicale quand même. Non, c'est une très très belle histoire de nouveau-né. Donc je résume, ils ont imprimé d'abord un nez dans un biomatériau et ils l'ont effectivement greffé sur l'avant-bras de la patiente pour que la peau et les vaisseaux sanguins colonisent la structure. Voilà. Et après, c'est plus rapide que sur le visage, après ils ont découpé le nez, ils l'ont greffé à la bonne place. Mais ne riez pas. C'est vrai que pendant 2 mois, elle a eu un nez sur le bras. C'est costaud de faire pousser un nez. Vous moquez pas. Moi, j'arrive déjà pas à faire pousser du basilic. Alors, au début, ça peut être déconcertant, mais voyons les avantages. Imagine, t'es œnologue. On te met 14 pifs sur l'avant-bras. T'es capable de reconnaître un grand cru à 14 kilomètres. C'est quand même cool. En tout cas, ça ouvre la porte à beaucoup d'avancées scientifiques, à condition de pas tomber sur des étudiants farceurs.
Et dis donc, Jamy, je voulais te parler de cette nouveauté technologique, Jamy. Se faire pousser un organe sur le corps. Mais je n'ai pas eu de chance, Jamy. Des internes en médecine blagueurs ont profité de mon anesthésie générale pour me greffer une zigounette masculine au milieu du front, Jamy. J'ai l'impression d'être charlemagnien, Jamy. C'est à mon tour d'avoir une queue de cheval sur la tête. Alors que j'avais juste demandé un nez sur l'avant-bras, Jamy. Une technologie qui pourra nous servir à tous. Ou quasiment, Jamy, parce que si j'étais Philippe Croizon, je ferais gaffe à mon nez, vu qu'il a pas de quoi faire pousser des remplaçants.
Ah, c'est beau la science, c'est tellement beau. Allez, à demain.
Arnaud,
de Manche tous les matins, 7h20, 8h20 sur RMC et en podcast, bien sûr. Il est 8h23 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, mon invité, c'est Aymeric Caron. Aymeric Caron, l'ancien chroniqueur télévisuel qui est devenu député La France Insoumise, député La France Insoumise et qui, cet après-midi à l'Assemblée, tentera de faire interdire la corrida. Il est face à moi, c'est dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.